Kickstarter, pour moi, ça a toujours été un rêve. Depuis peut-être 2012, 2013, là, les premières campagnes, je regardais ça, je me disais, un jour, je vais faire un Kickstarter. Je vais en faire un moment donné.
Tu peux faire check.
Ouais. Ah non, ça a été...
Avec grand succès. Là.
Ouais, ça a été un beau succès. C'est surtout, on à ce moment-là, tu sais, j'ai des snapshots, par exemple, de mes fonds personnels, puis tu sais, il en restait plus gros. Là, j'atteignais ma limite de ce que j'étais capable d'investir dans la compagnie. Ça a été, tu sais, la nuit avant qu'on lance, j'étais en train encore de déboguer des liens derrière la campagne pour pouvoir bien suivre, tu sais, les publicités qu'on fait et tout ça. J'ai fait une nuit blanche.
Bonjour, bienvenue au projet Simplement Audacieux, un podcast où l'on fait ressortir les histoires d'entrepreneurs d'ici. Inspirant, authentique et persévérant. Découvrez les hauts et les bas qu'ils ont vécu.
Simplement Audacieux est un projet de Lavalinov, animé par François Bilodeau
et Ève Lacourcière.
Merci Samuel d'être avec nous aujourd'hui, c'est vraiment très apprécié.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir, on a eu la chance de t'inviter grâce au concours Rose Entreprendre, lequel ton entreprise a gagné. Dans quelle catégorie déjà?
On a gagné deux prix, dans le fond, on a gagné le prix Innovation Technologique pour la région de Laval, puis on a gagné aussi le prix Bourse Honneur Jeune Entrepreneur.
Wow. Félicitations.
Bravo.
Yes, on était vraiment contents.
Donc, pour que les auditeurs se situent, est-ce que tu voudrais, s'il vous plaît, te nommer le nom de ton entreprise?
Certainement. Je m'appelle Samuel Lemire-Dupont. Je suis le cofondateur de Kiima.
Que vous avez fondé quand?
On a fondé, ça fait à peu près 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans. Il y a toujours une zone grise quand une idée arrive, un démarrage de projet, puis que ça devient vraiment un projet de vie. Mais on approche le 2 ans bientôt.
Mais incorporé quand?
L'incorporation, en fait, ça a été faite en 2015. J'ai démarré une entreprise en 2015 pour un mandat à l'international que je faisais pour une firme australienne à ce moment-là. Ça me prenait une incorporation pour me protéger légalement. Puis j'ai juste réutilisé la même coquille, dans le fond.
OK.
C'est un détail technique.
Non, mais intéressant, comme je connaissais pas cette stratégie-là. Puis tu dis Kiima?
Oui, c'est K-I-I-M-A.
Qui veut dire, est-ce qu'il y a une signification particulière au mot?
Ouais, mais en fait, ça, pour nous, Kiima, ça vient de 3 choses. De K-Y-M-A en grec, qui veut dire la vague. Puis de K-I-M-A en basque, qui veut dire la floraison. Puis en fait, Kiima, c'est le nom que donnaient les tribus qui habitaient à la base du Kilimanjaro, à la montagne. Ils l'appelaient le Kiima Keju. Donc nous, quand on mixe tout ça en version poétique, ça donne le chemin ou la vague de changement vers le retour de la floraison de notre environnement. Puis on visualise le Kilimanjaro comme un peu la taille de l'objectif à laquelle on s'attaque, qui est immense.
C'est très, très poétique.
Wow. Content d'avoir posé la question, honnêtement. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Mais...
On y a pensé. Ça, c'est la magie de ma copine et cofondatrice qui a lancé l'idée.
OK, mais là, attends. En 2015, tu as enregistré le nom de Kiima, donc...
Non, en fait.
Ah, OK.
Le nom de l'incorporation, c'est Siotal Inc.
OK.
Puis quand on a commencé le projet, notre première personne qui a joint l'équipe, c'était un jeune designer industriel, et ma copine ont fait une rébellion contre moi pour qu'on change le nom. J'étais le seul au monde qui l'aimait. Je me dis, on va avoir tellement le meilleur positionnement de SEO, il y a personne qui crée ce nom-là. Fait que je le visualise un peu comme notre holding. C'est un nom qui sert à rien. On a enregistré en 2019 les produits Kiima.
Ah, voilà. Il y a toute une histoire déjà juste derrière le nom.
Yes.
Co-fondé avec ta copine qui s'appelle?
Jenny Essiambre.
Jenny?
Oui, originaire Micmac.
Et est-ce qu'il y avait un autre co-fondateur ou c'était vous deux puis il y a quelqu'un qui s'est joint à l'équipe rapidement?
Ben, en fait, ça a été nous deux. Ensuite, on a été monté un comité aviseur. Là, c'est les prochaines... pas prochaine, mais les premières ressources qui se sont joints à l'équipe. Quand on a vu la taille du projet, les différentes connaissances techniques qu'on allait avoir besoin, on s'est tout de suite entouré là, d'experts là, qui sont des gens une vingtaine d'années d'expérience dans leurs différents domaines qui nous donnent des conseils depuis extrêmement généreux de leur temps puis qui permettent de solidifier le projet. Ensuite, bon, on est passé un peu de l'idée au concret. On avait l'idée des produits rechargeables. Ça nous prenait le produit. Donc, on a embauché un jeune designer junior qui a été un peu la première ressource de l'entreprise, qui est maintenant employé temps plein avec nous, avec qui, ensemble, on a co-créé le produit de A à Z. Ça a été vraiment une belle expérience. Je travaillais à temps plein à ce moment-là. le soir et week-end, le designer venait me rejoindre dans mon bureau qui est en fait, je travaillais dans la firme de consultation de mon père, puis il venait me rejoindre dans mon bureau, donc chez mon père, puis on a acheté des imprimantes 3D, on s'est mis à dessiner, à faire le mécanisme.
Pour votre premier produit?
Pour le premier produit.
OK. Donc, la vision, tu disais que c'était de faire des produits rechargeables, des produits...
Dans le fond, l'essence qui a démarré le projet,
ouais,
c'est
l'idée.
Vrai. Ouais, on n'est pas tombé sur les produits rechargeables du premier coup. En fait, on cherchait une façon d'avoir un impact sur les enjeux planétaires qu'il y a en ce moment. Puis c'est vraiment venu, tu sais, d'une passion, mais tu sais, des fois, tu vois des crises à la télévision, t'entends parler de la pollution plastique, des ours polaires, tu sais, t'entends toutes sortes de choses. Tu te dis, wow, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, comme individu? Puis tu réalises que si toi, tu le fais pas, puis que personne le fait, ben ça va juste rester comme ça. Fait que nous, on est parti à brainstormer sur qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Puis on a eu toutes sortes d'idées de repenser au système de recyclage complet des villes. Puis on a décidé de s'attaquer à la source, à la conception même des produits qui sont pas faits avec des choix qui s'alignent avec nos valeurs. Puis pour nous, tu sais, le déodorant, c'est 1,2 milliard d'unités juste en Amérique du Nord qui sont fabriquées et jetées à chaque année. C'est immense, puis c'est fait de matière là, qui dure des centaines et des centaines d'années. Donc, pour nous, ça a été un choix assez simple de voir quel impact on aurait si on se lancerait là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on s'est lancé.
C'est comme ça que vous avez identifié le marché des déodorants, en fait, parce que on n'y pense pas, mais effectivement, on les utilise une fois, on les fout à la poubelle et ils restent là pour une centaine d'années, je pense que tu dis.
Ah, c'est juste un sac de plastique d'épicerie, c'est 400 ans.
Fait qu'imagine la durée du plastique.
Exact. Puis j'ai jamais jeté un de mes applicateurs de déo dans le temps que j'en jetais. Là, j'en jette plus. Free since 2 years. j'en ai jamais jeté un. Je me disais, wow, il est fini cet applicateur-là. Tu le jettes, il est encore dans le même état quand tu l'as acheté.
Parfaitement fonctionnel.
Exact. Ah ouais, fait que c'est là que tu dis, wow, il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, tu vas en tablette d'épicerie, puis tu regardes qu'est-ce qu'il y a. Puis tu dis, wow, c'est la même chose qu'il y a depuis 15-20 ans. Fait que tu sais, même un consommateur qui est averti, qui veut changer ses habitudes, c'est difficile, tu sais, de faire le chemin, de faire le choix. Puis nous, on voulait créer un produit qui allait permettre aux gens d'être l'étape de transition, puis dire, ben d'un, il est pas mal plus beau, il est pas mal plus fonctionnel, puis on donne du choix. Donc, tu sais, d'aller faire des partenariats, ça a été une autre décision qu'on a pris vraiment dans l'optique de réduction des déchets. Si on se lançait à faire notre propre déo, on aurait été limité par les barrières autant de langue, de culture, que de désir individuel envers les odeurs. Tu sais, les odeurs, c'est comme les parfums un peu, les déodorants, c'est très personnel. Tu choisis ton savon, tu le sens, tu veux sentir ce que ton produit sent. Donc, pour nous, c'était essentiel qu'il y ait plusieurs offres pour le consommateur de choisir. Mais aussi, peu importe où dans le monde, on est capable d'offrir une recharge locale.
Fait que c'est pour ça que vous êtes concentré sur l'applicateur et non pas le produit déodorant.
Exact. On n'est pas la première marque qui fait un déodorant rechargeable, mais on est la première marque d'applicateur rechargeable.
Okay.
Donc, nous, on fait des applicateurs, on fait pas du déo. On est en train de concevoir notre deuxième applicateur rechargeable qui va servir à un autre produit de soins corporels. Puis c'est vraiment sur ça qu'IMA se concentre. Puis ça permet à nos partenaires, eux, à se concentrer sur faire des recharges de déo, puis vraiment le produit, puis plus avoir le casse-tête relié au packaging.
Donc, votre idée, c'est de créer un applicateur d'un produit corporel. Vous avez décidé de commencer par le déodorant. Fait que là, vous l'avez conçu, designé. Comment ça s'est passé? Parce que là, je te parle, puis j'en vois ici, là, tu t'en as amené pour qu'on les voit, ils sont très, très beaux. Comment ça s'est passé pour avoir un produit concret, là, en fait, les étapes que vous avez dû franchir?
Ça a été beaucoup, beaucoup de questionnements. Essai-erreur aussi. Vraiment, tu sais, on a repensé jusqu'à l'utilisation puis pourquoi on s'en sert, dans quel contexte on s'en sert. Même la forme, en fait, c'est la forme qu'il y a au final. C'est pour imiter la main quand on la met de côté. C'est vraiment l'espacement d'une prise en main qu'on a considéré.
Fait que tout est pensé, là.
On y a pensé de A à Z. On a fait toutes sortes de designs. Tu sais, puis là, on vient tout juste d'avoir notre brevet international pour le produit. On a créé quelque chose d'unique. On s'est un peu fermé les yeux sur ce qu'il y avait dans le marché pour vraiment se permettre à l'imagination d'explorer des différentes solutions. On a testé, on a acheté des imprimantes 3D, on en a imprimé Celui que j'utilise moi, il sort de nos imprimantes 3D. Donc là, vous voyez des prototypes un peu plus haut de gamme avec une belle finition. Mais ça fait déjà un bout que j'utilise nos propres produits. Ça a été une belle expérience avec notre designer. On a vraiment... Moi, je me suis découvert des talents d'inventeur au travers de ça.
Wow.
Puis ça a été vraiment juste trippant. J'étais tout le temps en stratégie, en affaires, en modèle d'affaires. Puis là, de fermer la porte puis dire, bon, là, je fais un produit. T'sais.
Mm-hmm.
Puis chaque nouvelle amélioration qu'on faisait amenait sa contrepartie de problème. Fait que là, il fallait vraiment jongler avec ça. Puis on a été chercher beaucoup de conseils d'experts pour valider, on s'enligne-tu vers le bon choix.
Ouais.
Notre première optique, c'était en stainless.
Okay.
On faisait un applicateur en stainless parce que c'est un produit qui est 100% renouvelable, qui est indestructible pratiquement, puis qui est super bon pour résister à la rouille ou aux différentes solutions. Puis c'est vraiment en faisant les études sur l'aspect environnemental derrière le produit qu'on s'est rendu compte que d'aller vers un plastique biosourcé, c'était vraiment une optique qui était à court terme la plus éco-responsable. Puis juste cette partie de démarche a pris à peu près 6 mois où je parlais à des experts, ils me disaient non, faut que ça soit en plastique. Je suis comme non, impossible, en plastique. On fait un produit réutilisable pour éliminer le plastique à usage unique. Mais c'est vraiment quand tu te plonges dans les études, on a été chanceux parce que on arrive à un point où il y a beaucoup d'études qui ont été faites, par exemple sur les bouteilles d'eau réutilisables. J'en vois sur la table, les 3 sont en plastique. Je vous garantis que s'ils seraient en stainless, leur empreinte de carbone serait plus élevée, juste pour la fonctionnalité, la durée. Puis
ah oui, hein?
Oui. Ben, le stainless, ça prend extrêmement de chaleur pour le manipuler, le transformer, l'extraire. Ça aurait fait en sorte pour nous, pour l'applicateur. Puis même chose pour l'aluminium, même si on a des très bons programmes pour faire des produits en aluminium au Québec. C'est l'empreinte environnementale qui est super élevée sur ces matériaux-là. À court terme, puis nos problèmes environnementaux, oui, sont à long terme, mais sont aussi à court terme. Si on crée plus de CO2 à court terme pour réduire les déchets, on règle pas...
C'est pas un gain, là.
Non, c'est ça.
Donc, dans le processus, vous avez appris plein de connaissances techniques que tu n'avais pas nécessairement au départ. Là.
Ah, c'est incroyable. Autant moi que Jenny, puis je pense chaque personne dans l'équipe, c'est fou quand tu regardes un projet, tu te dis, OK, on va suivre les étapes, on s'entoure, on trouve les trucs. C'est incroyable la quantité d'informations que j'ai. Je me regarde au début du projet il y a 2 ans, puis j'avais aucune idée dans quoi je me lançais. tu le sais dans quoi tu te lances parce que ben t'as une vision, tu sais où tu vas te rendre, mais là j'ai appris tellement de choses sur la fabrication des produits, sur les vrais enjeux environnementaux. Ouais. Sur le financement d'entreprise.
Oui, j'ai un très, très grand sourire parce que je suis comme un peu fascinée. Là. Toi, c'était comme clair que t'aimes être autonome, avoir les mains sur le volant, découvrir, apprendre, prendre des risques. T'as vraiment l'air d'être un entrepreneur né. C'est ce que j'ai l'impression en t'écoutant. Est-ce que c'est la perception que t'as de toi-même?
Je sais pas. Honnêtement, il y a quelque chose que j'ai réalisé vite. C'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu sais, pour faire des choses. Puis, je me voyais pas dans une routine. Puis, je me voyais pas faire un métier qui allait pas me passionner.
Mm-hmm.
Parce que si tu gaspilles ta vie, entre parenthèses, 40 heures semaine à faire quelque chose que t'aimes pas, l'autre tiers, tu dors, il te reste pas beaucoup de temps pour vivre, tu sais. Puis, c'est l'entrepreneuriat à la base. Je pense, peu importe le projet, c'est de l'adrénaline, tu sais, c'est... Quand tu vas voir un client pour la première fois puis il dit « oui, j'achète », la première fois que tu vas vendre un produit, tu es dans le char puis ta ride de 2 heures, elle dure 15 minutes parce que tu flottes.
C'est le plus beau feeling.
Ouais, puis je parle pas juste de vente. La première fois que Fadi, notre designer, a mis le déo en dessous de son bras, à ce moment-là, ça avait l'air d'une patate, ça avait l'air de rien. Mais j'ai encore la photo dans mon cell, puis tu sais, on est 2 gars.
Attends, t'as une photo de Fadi.
Ah, j'ai pas son release. Je peux pas la partager, celle-là, encore, mais peut-être dans 10-15 ans, si on sort des archives.
On en prend bonne note, on reviendra avec
ça. Tu sais, les deux, on est crampés, c'est une émotion, tu sais, ça marche, là, tu sais, c'est fou.
On a inventé quelque chose.
Même quand on a gagné la bourse. En ce moment, moi, ça fait 2 ans que j'ai investi dans Kima. Ceux qui pensent que c'est un centre d'affaires, c'est pour devenir riche, ben choisissez bien votre projet. Parce que...
pour l'instant, c'est pas le cas.
Ah, ça le sera jamais. On a tellement de produits à faire, on a tellement de choses à faire avec Kima que le jour que je vais pouvoir manger de l'entreprise, ça va déjà être super. Puis après ça, c'est ça, j'ai d'autres ambitions que les miennes, ils passeront pour plus tard.
Donc, de la passion puis des valeurs très, très fortes.
Ben, si tu fais un projet auquel tu crois, les gens vont le sentir. Mm-hmm. Puis quand il va arriver le choix entre aller prendre une bière avec ton ami ou finaliser la demande pour un concours ou te reposer devant la télé ou versus préparer le planning de ton équipe pour la semaine d'après, c'est des moments où tu peux flancher, qui vont faire flancher ta compagnie, tu sais, éventuellement. Fait que pour être capable d'arriver au niveau de sacrifice que l'entrepreneuriat demande, t'as pas le choix d'y croire toi-même puis d'être passionné.
Comment ça se passe être deux? T'as parlé de Jenny, ta copine. Donc, vous êtes les deux impliqués dans l'entreprise. Elle est à 100% comme toi ou elle a un travail à côté?
Non, Jenny, en fait, est designer d'intérieur de métier. Okay. Puis, elle est excellente dans ce qu'elle fait. Elle fait des super beaux projets. Puis c'est pas quelque chose qui va s'en aller. Fait que puis dès le départ, c'était clair entre nous. Moi, je m'occupe du quotidien de l'entreprise. Jenny est là comme un support, c'est pas inconditionnel que je veux dire, mais en tout cas, incontournable. S'il n'y aurait pas Jenny, il n'y aurait pas Kima, il y aurait peut-être Seattle Inc. on se serait pas rendu loin.
Qui sonne beaucoup moins bien, honnêtement.
Non, c'est ça. Jenny, elle a une magie. Il y a des personnes, tu sais, j'ai dit que j'aimais l'art. C'est peut-être pour ça que je tombe en amour avec une artiste. Elle a une magie, Jenny, qui fait en sorte que les choses marchent. Donc, c'est elle, notre directrice artistique, qui valide toutes les moindres finitions, les moindres détails. Puis tu sais, même jusqu'au plan d'affaires collaboratif, ça fait partie de Jenny. Puis je pense que si j'avais pas croisé Jenny, j'ai beaucoup de mon éducation personnelle sur l'éco-responsabilité qui vient de son impact. T'sais, des fois, je peux rentrer le soir de mon boulot, puis je la vois presque en larmes devant son téléphone parce que là, elle vient de tomber sur un article sur justement les ours polaires qui ont faim et tout ça.
Grande sensibilité.
Ouais, puis ben, tu sais, c'est comme ces moments-là qui ont été les petites étincelles de départ, ou même c'est nos voyages aussi. Là, il y a plusieurs de nos couleurs qui sont nommées derrière de nos voyages. Où on se rend compte de la beauté de la nature puis de l'importance de la protéger. La seule chose qui est difficile, c'est qu'on est deux passionnés.
Ouais.
Fait que des fois, on se réveille à 2h du matin. Ça nous est arrivé une fois, là, j'ai le flash. Là. On s'est réveillé à 2h du matin puis on a commencé à brainstormer. Puis c'est là...
Ouais.
Ça a duré jusqu'à comme 4h30, puis là, on était sur un high. On avait eu l'idée, tu sais, vraiment, tu sais, que Kima, c'est pas juste une entreprise, c'est un mouvement, puis tu sais, vraiment, on va être en collaboration autant avec les usagers qui vont permettre de réduire les déchets, avec les fabricants de déo, puis tu sais, c'est les parties les plus dangereuses, je dirais. On peut s'enflammer. L'autre point, c'est que, tu sais, le COVID aide pas. Là, on est supposé rentrer dans nos bureaux au tiers-lieu. En ce moment, tout le monde est en télétravail. Jenny a pris mon bureau. On est un 4,5. Fait que j'avais mon bureau où je travaillais. Jenny a pris le bureau pour faire son design. Puis moi, je suis sur la table à manger. Fait que la bannière climat que vous voyez, là, c'est notre vue à temps plein. La fin de semaine, je l'arrange, même si j'ai encore un peu de boulot, juste pour se laisser respirer. Fait que c'est sûr, on est un peu un mode 24/7 travail qui est moins sain. Mais là, on a hâte un retour à la normale puis mettre une distance. Hein.
Ce podcast est commandité par Planet Hoster. Pouvons-nous réellement faire confiance à Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. pour nos données? Aurais-je le contrôle sur le coût d'opération et ses augmentations futures? Beaucoup de questions à se poser avant de faire confiance à un fournisseur cloud. Planet Hoster recommande de bien diversifier ses fournisseurs cloud comme il s'agit d'un placement. Visitez notre site web et découvrez un entrepreneur web de premier choix.
Je sais que vous avez fait une campagne Kickstarter. J'y ai participé.
Merci.
Je suis vos nouvelles de rien. Je suis vos nouvelles avec grande anticipation. Comment ça s'est déroulé? Puis parle-nous de l'aventure, s'il te plaît, de Kickstarter.
Ben, Kickstarter, pour moi, ça a toujours été un rêve. Depuis peut-être 2012, 2013, les premières campagnes, je regardais ça, je me disais, un jour, je vais faire un Kickstarter. Je vais en faire un moment donné.
Tu peux faire check.
Ouais. Ah, non, ça a été.
Avec grand succès, là.
Ouais, ça a été un beau succès. C'est surtout, on, à ce moment-là, tu sais, j'ai des snapshots, par exemple, de mes fonds personnels, puis tu sais, il en restait plus gros, là. J'atteignais ma limite de ce que j'étais capable d'investir dans la compagnie. Puis, ça a été, tu sais, la nuit avant qu'on lance, j'étais en train encore de déboguer des liens derrière la campagne pour pouvoir bien suivre, tu sais, les publicités qu'on fait et tout ça. J'ai fait une nuit blanche, j'ai pesé send à 7 heures le matin. Puis là, je commençais à recevoir les textos, là, tu sais. Ah, on a atteint 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Je pense qu'on a fait 10 000, je pense, la première journée. Ça a été vraiment fou, là, tu sais. Tout le monde qui voyait le produit se disait, waouh, c'est bon, c'est une bonne idée. Je peux pas croire que c'est pas déjà partout, ce type de produit-là. Mais, tu sais, est-ce que tu vas l'acheter? Tu sais, il y a le marché.
Ouais.
Il faut qu'il te la donne, la réponse. Puis, je suis sûr que ma mère, ça lui fait plaisir de l'acheter. Mais tu sais, la personne que je connais pas, qui voit pour la première fois qui m'a, est-ce que c'était, on a réussi? Puis c'est là qu'on a eu vraiment notre réponse.
Ben, je peux te dire, pour moi, on s'était parlé avant dans d'autres circonstances. J'ai entendu parler de ça, je suis allé le voir et j'adorais le look du produit. J'ai exactement eu la réflexion. Comment ça, ça existe pas déjà? Ça, c'est, je vous enlève pas du mérite, mais ça a l'air tellement simple que ça aurait dû exister depuis 15 ans. Bref, ouais. J'en ai acheté un, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Puis pour revenir sur les objectifs, vous avez atteint quel montant en combien de temps?
Dans le fond, la campagne a duré 45 jours. Puis on a eu un sondage d'après-campagne où les gens pouvaient rajouter des choses. Ça a tourné autour du 110 000 à peu près en tout et partout. Là.
En 45 jours?
En 45 jours,
oui. Wow.
Pour ceux qui connaissent pas, là, comment ça fonctionne quand tu organises un Kickstarter?
Ben dans le fond, du point de vue du client, c'est souvent de la prévente de produits. Où tu permets à une entreprise, plutôt que de devoir... Tu sais, une entreprise, normalement, tu vas te financer pour acheter tes outillages. Ensuite, tu vends ton produit. Ben ça fait beaucoup de dettes avant de savoir même si ça marche. Donc, ça permet de dérisquer toute la portion financière de l'investissement pour une compagnie. Donc, nous, ce qu'on a levé sur Kickstarter, c'était pas suffisant pour démarrer l'entreprise, mais c'était assez pour pouvoir aller voir une banque et dire, regarde, on a un produit, on a un besoin.
Une preuve de marché.
C'est ça. Ça l'a vraiment facilité. Là. Toutes les institutions, on a demandé des fonds, on a été acceptés. Là.
Fait que ce que j'entends, c'est que chaque étape a son lot de défis, de challenges, de surprises, mais une fois franchi, amène une espèce d'allégresse, de confiance.
Je pense apprendre, c'est satisfaisant en général. Quand tu apprends quelque chose, tu deviens plus compétent. Comme là, on a fini le mécanisme de notre deuxième produit, puis on l'a fait avec tout le bagage d'amener celui-là en production. Fait qu'on s'est sauvé. Le cycle de conception est 4 fois moins long. Puis là, on va faire probablement une autre campagne avec celui-là rendu là. Mais on va faire la campagne.
On est entre nous, là. C'est quoi votre deuxième produit?
On va l'annoncer bientôt. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
Pas de spoiler, là.
Non, il n'y aura pas de spoiler aujourd'hui, mais épisode de saison 2 du podcast, je vais vous sortir le spoiler.
C'est parfait.
On s'est promis de livrer le premier avant d'annoncer le deuxième.
Ouais.
Officiellement.
Mais moi, je le sais. Tu m'en avais parlé off the record.
Off the record, je peux dire ben des affaires. Ouais.
Tu as parlé de brevet tout à l'heure. Comment a été le processus planification de brevet, dépôt?
J'ai goût de dire coûteux.
OK, ben,
mais non, c'est ça venait avec la validation. Il y a plusieurs raisons pourquoi faire un brevet. Dans notre cas, c'est pas pour protéger l'invention. C'est pour être sûr qu'on pile pas sur les pieds de quelqu'un d'autre. Parce que justement, on dérange les gros joueurs en ce moment. Il y a un des VP, je pense c'est l'ancien VP de Unilever qui avait dit notre plus grande compétition, tu sais, c'est pas les autres grosses chaînes, c'est les petites entreprises qui font des produits locaux qui sont très forts au niveau local. Puis avec Kima, ben on les rassemble toutes sur une bannière qui devient un peu internationale en ce moment. Moi je me fais voir sur LinkedIn couramment par les gros joueurs, tu sais, qui viennent valider mon profil. Fait que je sais qu'on fait la bonne chose.
Vous attirez l'attention.
C'est ça. Fait que pour s'assurer que des joueurs qui ont des moyens exorbitants viennent pas essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, on est allé s'assurer notre droit d'exploitation de notre propre produit.
OK.
Tel qu'il est conçu, mais il pourrait en concevoir un peu différent puis se sortir de votre brevet.
C'est ça. Puis on serait vraiment content qu'il le fasse. Pour nous, le marché, notre but, c'est pas d'être la seule marque. C'est, on veut être un des leaders, des acteurs qui va participer à ce changement-là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, ma vision, c'est que ta tablette de produits cosmétiques va être tous des applicateurs rechargeables d'ici 5 ans. puis qu'on va regarder en arrière, puis on va dire, maudit qu'on n'était pas vite. je peux pas croire que nos ancêtres vivaient de même. Fait que c'est vraiment ça que je vois comme vision. Puis tant mieux s'ils échangent. Je pense Dove, ils vont lancer leur déjà cet été. Puis pour moi, c'est toutes des bonnes nouvelles.
Fait que si vous, dans le fond, l'idée, c'est d'initier une vague de changement.
Exact.
Un changement de mentalité.
C'est le mouvement qui m'a.
Parfait.
Qui ont décidé sur l'oreiller.
Ouais.
Ben, ils en ont parlé sur l'oreiller, en tout cas. On peut savoir ça.
Ouais. T'as parlé tout à l'heure du tiers-lieu, puis je suis contente que tu l'aies mentionné, c'était parmi mes questions. Donc, c'est quoi le tiers-lieu, puis c'est quoi le tiers-lieu pour toi?
Ben, le tiers-lieu, c'est le premier concours qu'on a gagné.
Qu'est-ce que tu veux dire?
On avait appliqué à Entreprendre Rico, qui était une combinaison tiers-lieu des jardins qui nous donnait accès à leur coworking pendant un an.
OK.
Fait que c'était le premier concours. Là, on était rendu à une étape où travailler dans mon ancienne chambre de jeunesse chez mon père, c'était plus l'idéal.
Vous avez gagné une place au tiers-lieu, c'est ça, pour 6 mois, un an?
C'était un an. Okay. Puis la fin de l'année de cette place-là tombait dans le COVID. Fait qu'on n'a pas pu l'utiliser tant que ça. C'est vraiment... moi, j'avais une vision auparavant de mes idées, de toujours être très conservateur, garder ça pour moi-même, puis de pas partager. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans l'aventure. C'est des fois, je sais pas pourquoi on a cette manie-là de vouloir avoir peur que tout le monde nous copie ou je sais pas trop, mais le tiers-lieu, c'est une des places qui m'a aidé à m'ouvrir un peu envers. T'sais, c'est un espace qui est collaboratif, tout le monde s'échange tout, ils font des réunions pour s'aider, s'entraider.
Ils sont très forts sur l'intelligence collective,
c'est
entre autres.
Ouais. Exact. Puis, quand je suis allé là-bas, c'était une des choses que la propriétaire Marianne m'avait dit que, tu sais, on s'attend à de l'ouverture entre les membres. Puis, tu sais, mes premières rencontres, tu fais quoi, là? T'sais, moi, je suis en cours de brevet, là. Tu fais quoi? Ben, en DDO, tu sais, c'est ça. Ça m'a permis de m'ouvrir. Puis, je trouve que ça a été une super belle expérience. Puis là, justement, on regarde pour renouveler un espace là-bas pour nos premiers espaces pour le lancement de l'entreprise.
Ah, c'est bon. Mais tu vois, moi, je me suis beaucoup attachée au proverbe « Si t'as un objet, j'ai un objet, on s'en donne chacun, on repart chacun avec un objet. Mais si j'ai une idée, t'as une idée, je t'en donne une, tu m'en donnes une, on repart toutes les deux avec deux idées. » Je pense que c'est un peu ça la philosophie aussi derrière l'équipe du CERLU, là, Jonathan, Marianne, puis l'intelligence collective. Là.
Ben c'est souvent en brainstormant que tu vois un point de vue différent. T'sais, on a toutes des expériences, des cheminements de vie différents qui fait qu'on pense pas de la même façon. Puis à force d'échanger, ben je trouve que tu te cultives plus vite. Puis tu vois des opportunités, des solutions à des endroits que tu n'aurais pas pensé.
Ouais. La famille, comment ils voient ça, ton profil entrepreneurial?
Ben mes deux parents nous ont supporté autant financièrement qu'intellectuellement dans le lancement du projet.
Okay.
Ça a été, on a eu des dons, du Love Money dans le départ. Fait que déjà là, c'est super un appui qui nous a permis de se rendre là. Mon père, il siège sur notre comité aviseur.
Okay.
Comme consultant en stratégie d'affaires. Donc, il m'a aidé autant à la rédaction du plan d'affaires. Cette semaine, j'avais un appel de production. Il est venu sur l'appel. Donc, il est vraiment très impliqué. T'sais, tout le monde sait l'ampleur du projet aussi. Je peux être aussi un visionnaire. J'ai toujours été un visionnaire qui voit des choses ambitieuses.
Ouais. Est-ce que lui, te ramène un peu?
Je dirais ma compagne.
OK.
En ce moment, on est vraiment focus. Là. Il y a un objectif, c'est livrer le produit. Okay. Tout le reste circule dans nos temps où on ne peut pas travailler sur livrer le produit.
OK. Donc, lui, est-ce que c'est un entrepreneur, ton père?
Oui, mon père est consultant en stratégie d'affaires.
OK.
Puis, il aide des entreprises manufacturières à s'exporter, là, principalement du Québec vers l'international.
Ah, ouais. La pomme n'est pas bien loin de l'arbre non plus.
Non. Quand j'étais petit, il y avait une boîte en robotique dans le temps. Puis, je triais ses papiers là, dans mes journées de congé d'école. Là. Fait que ça a toujours été un beau modèle d'entrepreneuriat pour moi.
Et puis, ta mère?
Ma mère travaille pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois.
OK.
Puis, elle est directrice... de la division des services de garde.
Fait qu'elle aussi a des compétences de gestion qu'elle peut transférer.
Yes. Ouais. Ouais, toujours de bons conseils.
T'as-tu des frères et des sœurs?
Oui, j'ai un frère, il est ingénieur génie civil.
OK.
Puis il gère des gros chantiers. Là. Ça serait mon rêve de l'avoir comme directeur des opérations. Là, mais je vais le courtiser encore un petit peu.
Le message est lancé.
Ouais, il sait.
Ouais. Ouais. Chaque chose, des fois, en son temps.
Non, il est bien où il est, là. Donc, love you, brother.
Je me permets une dernière question.
Oui.
Si tu avais la chance, t'es pas vieux, là, clairement, là, mais si tu avais la chance de parler à Samuel plus jeune, quel conseil lui donnerais-tu?
Tabarouette, c'est drôle parce que je me suis posé la même question il y a comme 2 jours.
Excellent.
Je pensais que tu allais dire il y a 2 minutes.
Non, je savais que vous autres, okay. J'étais là. Tu sais, on dirait sur mon parcours de vie, je changerais pas grand-chose. Puis je pense que tout le monde veut, je crois vraiment qu'on se bâtit au fur et à mesure de notre vécu. Puis là où je suis, il y a pas de shortcut. T'sais, des fois, dans la vie, il faut que tu te plantes. Il y a des claques qu'il faut que tu reçoives pour réaliser des choses. J'ai fait, par exemple, mon pire pitch de vente. Je peux même pas dire où. Mais je l'ai fait, puis je me suis planté comme jamais. Puis, tu sais, si je l'avais fait, ce pitch-là, comme il faut, ça aurait permis vraiment des grandes choses pour Kima cette année. Puis, tu sais, il fallait que je me le plante pour me reposer les questions. Wow, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment ça j'ai raté une belle opportunité comme ça? J'avoue que ce pitch-là, si je pouvais me le redire, je me dirais de me préparer un peu mieux. Sinon, tu sais, ce que je dirais à une personne qui est à la même place ou que j'étais il y a 2 ans, c'est vraiment de foncer, de le faire, de pas... Tu sais, on pense toujours à ce qu'on a à perdre quand on se lance dans quelque chose. C'est, veux pas, pour nous, c'est des grands sacrifices parce que on avait, par exemple, 2 choix. Tu sais, là, c'est le cash down pour la maison, c'est les investissements dans le couple. Là, les voyages, bon, on pouvait plus y aller de toute façon, mais la décision était prise avant qu'on soit dans ce monde-là. Tu sais, c'est énormément de sacrifices aussi, de moments. Puis c'est sûr que ces décisions-là, tu sais, tu te dis, bon, là, tu sais, je vais mettre tout ça. Ça veut dire que nos projets de couple, de vie, vont être retardés. Si ça marche pas, on repart à case départ. Tu sais, j'ai pas le goût de me retrouver non plus à 60 ans où j'ai parti 60 entreprises. Ils ont toutes pas marché, mais maudit que j'ai appris des choses, tu sais. Il y a comme un moment donné...
Un équilibre, là.
Ouais.
Là, vous avez gagné aux entreprises régionales, la région de Laval,
ouais,
dans la catégorie innovation et technologie. Ce qui veut dire que vous vous en allez à la compétition provinciale sous peu.
On l'a déjà fait, la présentation.
OK, vous avez fait une présentation. Est-ce qu'on sait quand est-ce que les résultats vont être dévoilés?
C'est en juin. Je sais qu'on a été choisi pour participer à la finale Prix du public.
OK.
Donc, il va y avoir 5 entreprises, puis il va falloir voter.
OK.
Donc, ça, je sais. Sinon, je ne sais pas pour la suite. Mais honnêtement, il y a plein de beaux projets au Québec.
Ah oui, c'est...
Puis, j'aimerais pas être un jury, à les choisir. Pour nous autres, les concours, c'est des belles opportunités de repenser à ton modèle d'affaires, de pratiquer tes pitchs, d'avoir du feedback honnête. T'sais, les gens qui vont comme jury sont souvent très très nobles déjà de leur temps de se dédier à ça. Fait que ça donne tout le temps des beaux retours.
Ouais.
Fait que ça vaut la peine juste pour le processus, là, peu importe si tu gagnes ou pas. Sûr, quand tu gagnes, ça l'aide aussi.
Ça amène une crédibilité, la confiance, des choses comme ça.
Ouais.
Reconnaissance du milieu. Écoute, ben au moment où le podcast va être diffusé, on va le savoir si vous avez gagné. Fait que on vous souhaite vraiment la meilleure des chances, mais ce qu'on vous souhaite surtout, c'est de réussir à concrétiser par vos actions les valeurs qui vous portent. Donc une transition écologique, une conscientisation de la population, puis de créer un mouvement où on va arrêter de jeter des choses qui seraient encore très très bonnes juste parce qu'ils ont été faits à usage unique. C'est une très belle vision, très inspirante. Merci beaucoup.
Ben, merci de l'invitation.
Un grand merci, Samuel.
Merci pour ton temps.
Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast, partagez-le à votre entourage et écrivez-nous des commentaires. Nous aimerions également entendre vos suggestions d'entrepreneurs inspirants et audacieux pour nos prochains épisodes. Visitez notre site web à lavalinov.com dans la section Équipe pour nous rejoindre personnellement.
Vous pouvez écouter le podcast Simplement Audacieux gratuitement sur le site web de Lavalinov ou encore là où vous avez écouté cet épisode. Simplement Audacieux est une production de Lavalinov.
À la réalisation.
Vidéo Marketing Québec.
Au soutien logistique.
L'agence EMI.
À la musique.
Marc Gravel.
À l'infographie et au marketing.
HKD Design.
Merci à tous.
Ben peut-être off record, c'est quoi le c'est quoi votre intention avec le podcast?
Notre intention avec le podcast, c'est de faire connaître les histoires d'entreprises, d'entrepreneurs comme toi. Donc, d'inspirer les autres à se lancer. C'est de voir, là, tu nous as parlé de ton parcours, tu avais une vision au départ, t'as peut-être pas tout planifié, la vie t'a amené là et ça se fait par du monde. Et si vous y croyez, si vous êtes impliqué dans votre projet puis que ça vous passionne, vous allez vous réveiller à 2 heures le matin peut-être pour faire de la planification stratégique ou en parler avec votre chum, votre blonde, puis vous allez y arriver. C'est pas sorcier. C'est faisable par du monde.
Puis moi, j'aimais aussi l'idée de faire du bien, tu sais, d'écouter quelque chose. Quand on a eu l'idée, là, c'était dans la pandémie, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles. On était anxieux de la maladie, anxieux des mesures, etc. Puis on se disait, mais on peut-tu faire un produit qui fait du bien, là, que oui, les entrepreneurs vont se retrouver, là, mais que ma mère, là, qui me disait, il y a juste des mauvaises nouvelles à la radio, elle m'a dit, gars, écoute ça, maman, là, tu vas voir, il y a du monde qui ont des bonnes idées, il y a du mouvement, il y a de valeurs, la vie. Ouais. Quelque chose d'inspirant. Monde, ouais, fait, oui, on s'intéresse à l'entreprise parce que c'est intrinsèque à l'histoire, mais ce qui nous intéresse plus, c'est les valeurs, le mouvement, l'inspiration de la personne.
Et c'est ça le but du projet.